l'étude de la parole, pour la prédication de la parole, votre Bible, dans l'évangile de Matthieu. Alors, nous allons commencer une série d'études dans l'évangile de Matthieu. Les anciens de l'église de Saint-Denis ont choisi cet évangile. Alors, bien sûr, on ne fera pas tout d'un trait, hein. Il y aura des interruptions, d'autres choses, mais on se lance dans le partage ensemble, l'étude ensemble, l'exposition de ce livre. Et le thème qui a été choisi pour l'ensemble du livre, c'est un verset qui est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 5, je crois, où il dit « Voici ton roi vient à toi », parce que l'évangile de Matthieu présente Christ, le roi. Donc le thème général, c'est « Voici ton roi vient à toi ». C'est un verset qu'on trouve dans l'Ancien Testament aussi, dans Zacharie, hein, chapitre 9, et qui est repris dans l'évangile de Matthieu. Donc ça sera le thème. Donc nous allons lire pour aujourd'hui la prédication du chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 17. Probablement des versets que vous auriez sautés tout de suite, que nous aurions sautés tout de suite pour aller au verset 18. Mais nous allons écouter la parole de Dieu dans ces 17 premiers versets. Et nous vous demandons d'ouvrir votre Bible ou votre support que vous avez pour la parole de Dieu. Nous allons la lire. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pérès et Zara. Pérès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Sélatiel. Sélatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihu. Abihu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ceci est la parole de Dieu.
Bonjour à tous et à toutes. J'étais frappé ce matin par l'exclusivité du christianisme. Parce qu'on a dit, pour notre thème, Jésus est le Messie pour nous. Il n'est pas l'un des Messies. On n'a pas le droit de choisir entre lui et une autre. Il est le Messie. Et après, on a chanté une phrase qui m'a interpellé. C'est la phrase « En cherchant sa gloire, nous nous perdons en lui ou dans sa vie », quelque chose comme ça. Ça, c'est fort. Oui, ça, c'est fort. De dire que cet homme est digne d'un tel attachement que je me perds dans sa vie pour lui. Et si quelqu'un arrive et dit « Voilà, je suis digne », d'un dévouement comme ça, on va poser une question, n'est-ce pas? Prouve. Prouve ça. Hein? Parce que ça, c'est une affirmation aussi forte, tellement forte, qu'on ne peut pas l'accepter sans justification. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Voilà. Ce matin, nous considérons un passage qui semble, si nous sommes honnêtes, inutile et ennuyeux, parce qu'il présente les ancêtres de Jésus. Oh là là. Mais c'est important parce que ça, c'est la justification d'une affirmation très forte. Je suis le roi ultime. Voilà. Nous ne comprenons pas naturellement la signification d'une généalogie parce que nous faisons partie d'une république. On n'a pas les monarques, les rois qui disent parce que je suis né de cette famille, j'ai le droit d'être votre souverain. Mais ça, c'est le cas ici pour Jésus. Et ce que je prie ce matin, c'est que nous voyons que ces versets nous présentent le thème de l'Évangile. J'ai changé un peu le thème. Le thème, c'est que Jésus est le roi ultime venu pour bénir le monde. D'accord? C'est marqué là. Jésus est le roi ultime venu pour bénir le monde. Et ça, c'est notre thème. Et le thème se trouve ici dans la généalogie de Jésus-Christ. Nous allons considérer d'abord comment la forme et la fonction des versets 1 à 17 nous présentent Jésus, le roi ultime. Ensuite, nous parlerons de leur présentation de Jésus comme la bénédiction du monde. Ça, c'est notre temps pour ce matin. D'abord, la forme de la section du passage. Ces 17 premiers versets se divisent en deux parties. Il y a un titre, ça c'est verset 1, et une généalogie, verset 2 à 17. Et on va parler d'abord du titre. Et nous allons considérer rapidement trois éléments du titre. L'étendue du titre, deux relations dans le titre et deux alliances dans le titre. Le premier mot de l'Évangile, selon la version Louis Segond et la version Nouvelle Édition Genève, c'est le mot quoi? Généalogie. Et ce mot nous fait penser que le titre, verset 1, introduit les versets 2 à 17. Mais la version Darby a une traduction un peu différente. Il dit « Livre de la généalogie ». Et cette version représente plus précisément le grec. Le mot « livre » nous indique que le titre est en fait une introduction à l'évangile entier. Et moi, personnellement, je penche vers cette compréhension du titre. Le verset 1 introduit bien sûr la généalogie, mais la généalogie, ce n'est qu'un moyen par lequel Matthieu justifie l'affirmation de son évangile, que Jésus est le roi ultime venu pour bénir le monde. Donc, le titre et la généalogie, c'est à mon avis pour l'évangile entier. C'est-à-dire, quand on lit ces 17 versets, on lit le commencement du thème de l'évangile. Notons ensuite que Matthieu fait référence à deux relations au verset 1. Il mentionne d'abord qui? Jésus, fils de David, et ensuite Abraham, oui. Et cet évangile est l'évangile le plus juif de tous les quatre évangiles. Il est donc supposé que les destinataires étaient en général juifs. Il n'est pas surprenant donc que Matthieu commence son évangile en soulignant que Jésus est lié à deux des plus grands hommes de l'histoire juive, le fondateur de la nation et son plus grand roi. Sinon, d'accord? Sinon, ses lecteurs ne pourraient pas accepter sa thèse. Jésus est le roi ultime venu pour bénir le monde. Il faut prouver ce fait. Matthieu veut souligner aussi, il veut souligner la judéité de Jésus, ça c'est vrai. Mais il veut également attirer notre attention sur deux alliances faites avec ces deux hommes. Considérons d'abord l'alliance entre Dieu et Abraham. D'accord? En Genèse 12, 2 à 3, nous lisons ces mots. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Mais pour qui ? Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et plus tard, Dieu dit, au chapitre 17, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » En mentionnant Abraham et Matthieu, et David, en mentionnant Abraham, Matthieu met l'accent sur le fait que Jésus fait partie de cette grande promesse. Une nation qui bénira le monde. Et pensons deuxièmement à l'alliance entre Dieu et David enregistrée en 2 Samuel chapitre 7. Là, Dieu promet que le trône de David durera à jamais. Ta maison, il dit, et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Verset 16. Et les prophètes de l'Ancien Testament rebondissent et sur cette promesse, n'est-ce pas? Prenez pour exemple Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. En Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 6, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera un roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. » Ézéchiel 34, 23 à 24. J'établirai sur elle un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Matthieu prend la relève de cette espérance en soulignant le fait que Jésus est l'un des fils de David. Et le lecteur ou l'auditeur sérieux se pose la question, est-il le fils de David que nous attendons? Le roi ultime qui bénira le monde, c'est cet homme-là? Ça, c'est le titre. Mais maintenant, on va considérer la généalogie. Après le titre qui avance l'idée que Jésus est un juif et il est un roi selon David, Matthieu justifie la thèse du livre par une généalogie. Bon, à ce stade-là, je veux que nous notions deux aspects de la forme de la généalogie, d'accord? Premièrement, la généalogie est façonnée avec soin, d'accord? Le verset 17 nous indique que la généalogie est façonnée soigneusement. Ce qui est clair, c'est que Matthieu n'a pas inclus toutes les générations entre Abraham et Jésus. Une simple comparaison avec l'évangile selon Luc nous le révèle. Cette différence soulève une question. Pourquoi cette différence? Est-il trompé? Pourquoi la différence? Je pense que la bonne réponse, c'est que Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a formé cette généalogie en trois groupes de 14 afin de mettre en avance, dès le départ, sa thèse. Jésus est le roi ultime venu pour bénir le monde. Il veut communiquer quelque chose avec cette généalogie. Et notons ensuite l'accent mis sur David. D'accord? Matthieu a soigneusement organisé ces versets afin de mettre l'emphase sur David. Matthieu met David au centre par l'inclusion du titre roi au verset 6. Tout le monde savait que David était un roi. Pourquoi cette inclusion? Je pense qu'il veut communiquer son emphase sur David en tant que roi. Et deuxièmement, il semble que Matthieu a mis l'accent sur David par la structure de sa généalogie. Pourquoi Matthieu a-t-il choisi le chiffre 14? Parce que c'est un chiffre saint? Bon. Moi, je pense pas. Mais selon plusieurs, et je pense qu'ils ont raison. Il a fait parce que le prénom David est égal à 14. D'accord? Je vais essayer de vous expliquer. Évidemment, il était normal à cette époque-là d'assigner un chiffre à chaque lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà. La lettre D, étant la quatrième lettre, est égale à 4. Voilà. A, B, C, D, 4. Voilà. C'est simple, n'est-ce pas? La lettre V, bon, on va dire V, le wow, étant la sixième lettre, c'est la sixième lettre et il était égal à 6. D'accord? Vous avez ici David, le D, 4, wow, 6, le D, 4. Et vous êtes bien sûr plus fort que moi avec le max, mais ça égale quoi? Ça fait quoi? Ça fait 14. Et il semble que le choix du chiffre 14 était donc une autre façon de mettre l'accent sur le roi David. Mais ce qui est clair, c'est que la généalogie met l'accent sur le fait que Jésus est le descendant de David à travers Salomon, la branche royale qui a le droit au trône d'Israël. Oui, ça c'est clair. Il veut mettre l'accent sur David. Pourquoi? D'accord, pourquoi? Maintenant, on va parler de la fonction de la section qui est l'introduction au roi ultime. Et cet accent sur David nous amène à la considération de la fonction des versets 1 à 17. À la lumière des deux alliances soulevées au verset 1, cet accent sur le lien entre Jésus et David introduit la thèse de l'évangile entier. Jésus est le roi ultime venu pour bénir le monde. Et cette section nous introduit à Jésus en tant que le roi ultime par l'utilisation de deux titres. Les titres le Fils de David et le Christ, et elle introduit aussi un troisième titre d'une manière moins directe, mais parfaitement claire, le titre le Fils de Dieu. Considérons ensemble ces trois titres. D'abord, Fils de David. Si on regarde le titre, le fils de David, mentionné au verset 1, on peut demander quel rôle joue-t-il dans la suite de l'Évangile. Est-ce que c'est important pour l'Évangile entier? Bon, on verra. Ce titre est donné à Jésus 7 fois dans l'Évangile, par 2 aveugles au chapitre 9, verset 27, par une foule étonnée, chapitre 12, verset 23, par une femme cananéenne, chapitre 15, verset 22, par 2 autres aveugles, chapitre 20, verset 30 et 31, et par une foule en adoration, au chapitre 21, verset 9. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes utilisent le titre d'une manière qui implique quelque chose de beaucoup plus important que le fait que Jésus vient d'un lignage royal. L'importance du titre « Fils de David » est dévoilée par Jésus au chapitre 22, où il lit le titre « Fils de David » au titre « Le Christ ». Selon toutes les personnes qui ont utilisé la lettre, Jésus agit d'une manière qui manifeste clairement le fait qu'il est le Fils de David ou le Christ, le roi attendu depuis longtemps. À la lumière de ce titre, Fils de David, il n'est pas surprenant que Jésus soit venu en parlant du royaume de Dieu. Il est le roi, il est venu en parlant du royaume. On trouve que Jésus parle du royaume dans 20 des 24 chapitres qui suivent le début de son ministère terrestre. Regardez sur le mur ici, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Il parle du royaume. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Il parle de son royaume, le royaume de Dieu venu. Et je pense que ça met l'accent sur l'importance de ce titre, le Fils de Dieu. Il est venu. Et cet accent sur sa royauté était tellement fort que Pilate, le gouverneur romain, lui a posé cette question. Es-tu le roi des Juifs? 27, chapitre 11. Et Pilate a fait mettre sur la croix ces mots. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, au verset 37. Il me semble que Matthieu ne veut pas que nous rations le fait que Jésus est le roi, parce qu'il est le fils de David. Ça, c'est une partie très importante dans cet évangile. Le deuxième titre, c'est le Christ. C'est quoi le Christ? Bon, je pense que le titre, l'emphase du titre Fils de David sur sa royauté est confirmée par la signification du titre le Christ. Matthieu l'utilise 16 fois concernant Jésus. Et pour nous ce matin, 3 passages sont clés pour comprendre la signification du titre le Christ en Matthieu. Regardons d'abord chapitre 2, versets 1 à 6 dans vos Bibles. C'est un passage très connu. Là, les mages demandent à Hérode où est le roi des Juifs, n'est-ce pas, qui vient de naître. Mais notons la question que Hérode pose aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Où le Christ devait naître? Pourquoi Hérode a-t-il parlé du Christ quand les mages cherchaient un roi? Il l'a fait parce que le Christ était par définition, selon le verset 6, un chef qui paîtra le peuple. Un berger comme David, le roi. À mon avis, ces versets doivent informer notre perception du Christ. Utilisons Matthieu. Cette compréhension est confirmée par chapitre 22, versets 41 à 46, où Jésus pose cette question aux pharisiennes. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Leur réponse de David indique qu'il y avait à cette époque-là un lien proche entre les deux titres, le Fils de David et le Christ. Les deux font référence à la royauté. Et Jésus ne contredit pas leur réponse, mais il veut souligner un fait très important. Le Fils de David, le Christ, est plus qu'un descendant royal d'un roi humain. Il est plus grand que David, parce que David l'appelle mon Seigneur. Et le troisième passage qui montre une connexion entre le titre le Christ et le Fils de David est Matthieu 26, 62 à 65. Dans ce passage, le souverain sacrificateur exige que Jésus leur dise s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répond, tu l'as dit, c'est-à-dire oui. D'accord? Il continue sa réponse en faisant référence à la prophétie de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arrive quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. C'est un peu comme un roi, n'est-ce pas? Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Bon, notons deux choses. Premièrement, Jésus met l'accent sur le fait qu'être le Christ est être un roi. Et deuxièmement, parce que le passage en Daniel parle de la domination et du règne, mais deuxièmement, Jésus souligne le fait qu'il est plus qu'un roi humain. Daniel parle d'une domination éternelle. C'est pourquoi le souverain sacrificateur crie, « Il a blasphémé !» au verset 65. Ce n'est pas parce qu'il a dit, « Oui, je suis le Christ. » Parce qu'il a dit, je suis plus qu'un Christ comme tu penses. Je suis éternel. Et ça nous amène au troisième titre, le Fils de Dieu. Notre considération du titre le Christ nous a introduit au titre le Fils de Dieu. D'où vient ce titre, le Fils de Dieu? La première fois qu'on trouve le titre en Matthieu, c'est après le baptême de Jésus au chapitre 3. Dieu le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dans un sens, ce passage est la présentation du titre au lecteur, mais dans un autre sens, Matthieu a déjà introduit l'idée du titre dans la généalogie. D'accord? Regardons à nouveau la généalogie de Jésus au chapitre 1. Avez-vous remarqué comment Matthieu organise la généalogie au verset 2 à 16? J'imagine oui. Il répète 39 fois l'homme A engendre l'homme B. 39 fois. Bon, ça c'est un motif. Hein? C'est clair. Mais notez maintenant la fin du verset 16 qui parle de la naissance de Jésus. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle, c'est-à-dire Marie, parce que c'est féminin, est né Jésus. Selon vous, pourquoi Matthieu n'utilise-t-il pas le verbe engendrer ici? Pourquoi ce changement? N'est-ce pas parce qu'il veut communiquer que Joseph n'a pas engendré Jésus? Ouais. Mais si Joseph ne l'a pas fait, qui l'a fait? Et Matthieu nous donne la réponse à cette question au verset 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. avant qu'ils aient habité ensemble. Et le mot de Gabriel au verset 20 explique clairement que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Par ce changement de style, Matthieu anticipe la vérité révélée au verset 18 et 20. Dieu est le Père de Jésus. Jésus est donc Dieu avec nous, le Fils de Dieu. Ces trois titres nous présentent le roi ultime. Il est l'accomplissement de l'alliance faite avec David, le roi qui régnera éternellement sur le trône de David. Il est le Messie, le Christ, promis par Dieu pour la libération de son peuple, mais il n'est pas seulement un homme choisi par Dieu pour libérer son peuple. Il est le Fils de Dieu, Dieu avec nous. Il est le roi divin. Il n'y aura pas un autre roi parce que Jésus est le roi ultime. On n'entend pas un autre roi. Maintenant, on va considérer la bénédiction de la section. Dans l'introduction du sermon, j'ai dit que la thèse de Matthieu, c'est que Jésus est le roi ultime venu pour bénir le monde. Jusqu'à ce point-là, nous avons considéré comment les 17 premiers versets nous présentent Jésus en tant que roi ultime. Maintenant, nous allons considérer comment ces versets révèlent que Jésus est une bénédiction pour le monde. D'abord, une bénédiction. La généalogie implique au moins trois aspects de la bénédiction du roi ultime. Le besoin de bénédiction, la nature de la bénédiction et la fondation de la bénédiction. D'abord, la généalogie révèle le besoin d'une bénédiction. Est-ce qu'on a besoin d'être béni par quelqu'un d'autre? Oui. Nous prendrons les deux personnages le plus grand de la généalogie pour découvrir le besoin de bénédiction. Pensons à Abraham, le fondateur de la nation d'Israël. Il est vrai qu'il était un homme de foi, mais il est aussi vrai qu'il était un homme adultère qui a mis sa femme dans les situations dangereuses par son égoïsme. Ouais. Ça, c'est une partie de sa vie qui trouble un peu. Voilà. Considérons David, le plus grand roi d'Israël. Il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il était aussi un homme adultère, un meurtrier et un père qui n'a pas bien dirigé sa famille. Et si nous continuons à considérer le reste des personnes incluses dans cette généalogie, nous trouverons que la majorité n'était pas mieux qu'Abraham et David. Ce fait révèle le besoin d'un roi qui bénit. On n'a pas besoin d'un roi qui porte seulement la justice. Parce que si on a un roi comme ça, nous sommes finis, hein? Nous sommes grillés. C'est terrible pour nous. L'injustice de toutes ces personnes nous rappelle de notre propre état injuste devant Dieu. Comment pouvons-nous échapper à la malédiction prononcée sur les injustes si nous sommes aussi injustes? Il faut un roi ultime qui vient de Dieu pour bénir les injustes, comme celui qui se trouve dans la généalogie. Mais nous pouvons aussi noter la nature de la bénédiction. Cette affirmation nous amène à la nature de la bénédiction de Jésus révélée dans les deux alliances faites avec Abraham et David. Par ces deux alliances, Dieu s'est engagé à chercher et à sauver des pécheurs. La bénédiction envisagée est la délivrance des pécheurs de la punition de leurs péchés. Par cette délivrance, grâce à Jésus, il prendra pour lui-même un peuple. Et la généalogie révèle aussi la fondation de cette bénédiction de Dieu, la fidélité de Dieu. Nous voyons la fidélité de Dieu dans le fait que Dieu a tenu sa parole pendant des siècles, malgré le péché de son peuple. Israël n'était pas fidèle. mais Dieu reste fidèle. La fidélité de Dieu se présente aussi dans la puissance de Dieu qui a assuré que Rahab et Ruth se sont mariés à des hommes juifs. La bénédiction est nécessaire parce que nous sommes pécheurs. La bénédiction est la délivrance des pécheurs de la punition que leur péché mérite par le roi ultime qui a pris leur punition à leur place. Et cette bénédiction s'appuie sur la fidélité et la puissance de Dieu. Mais cette bénédiction est-elle vraiment pour le monde? La généalogie nous présente un roi juif, n'est-ce pas? David, Abraham, ce sont des juifs. Moi, je ne suis pas juif. C'est vrai que Jésus est juif, mais sa généalogie révèle que Dieu a toujours eu dans son cœur le salut du monde. D'abord, l'alliance avec Abraham promet que Dieu bénira le monde entier par Israël. Ensuite, l'alliance avec David promet un roi qui amènera la justice pour tout le monde. Et puis, on a plusieurs femmes non-juives qui étaient dans la généalogie du roi ultime, Rahab, Tamar, Ruth et peut-être Bathsheba. Ces trois indications sont confirmées par la fin de l'Évangile où nous trouvons l'union de la royauté de Jésus et la bénédiction du monde. Oui. Matthieu 28. Regardez ensemble Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après sa mort et sa résurrection, Jésus parle de son pouvoir universel. Il est vraiment le roi ultime, hein? Tout pouvoir au ciel et dans la terre, sur la terre. Sur la base de ce pouvoir, Jésus envoie ses disciples aux nations pour faire des disciples. Et ça, c'est la bénédiction du monde entier. Il n'est pas limité aux Juifs. Il est pour nous, les païens. Voilà. Maintenant, nous devons répondre à ce roi ultime qui est venu pour bénir le monde. Chacun présent répond soit par la soumission au roi ultime, soit par la réjection du roi ultime. Il n'y a pas un terrain d'entente. Je veux parler à vous qui n'êtes pas encore chrétiens. Pourquoi vous vous tardez? Pourquoi? Pensez-vous que vous pouvez échapper le jugement d'un roi universel? Il n'est pas possible de se cacher de lui. Son jugement vous trouvera un jour, et ça, c'est sûr. Soumettez-vous à lui aujourd'hui par la foi et la repentance. Et peut-être vous ne vous considérez pas digne de ce roi ultime, et vous avez raison. Personne n'est digne de Jésus. Personne. Mais Jésus est venu pour chercher pécheurs comme vous. Et comme moi. Rappelez-vous de sa généalogie. Dieu s'est engagé pour sauver des pécheurs comme Abraham et David et Judas et Tamar. Il vous sauvera aussi si vous mettez votre foi en Jésus. Pas de question. Il dit, venez. Venez maintenant. Ne tardez pas, parce qu'il est le roi ultime. Et pour nous qui professons d'être les disciples du roi ultime, nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Nous sommes pleins de joie. Et c'est une joie. Portons-nous les caractéristiques d'un disciple de Jésus, le roi universel? Et quelles sont ces caractéristiques? Selon Matthieu 28, 19 à 20, nous pouvons les résumer en deux choses, le baptême et la soumission à son enseignement. Ce sont les caractéristiques, d'accord? Ce n'est pas le moyen. Alors, vous voyez la différence entre les deux? Ouais, j'espère, oui. Le baptême, si vous vous dites chrétien, avez-vous vous identifié volontairement avec Jésus par le baptême trinitaire? Sinon, pourquoi pas? Comment pouvez-vous vous identifier comme chrétien mais refuser l'un des signes mentionnés par Jésus lui-même? Et la soumission à son enseignement. Chrétien, avons-nous des cœurs bien disposés à observer tout ce que Jésus nous a prescrit? S'il est le roi ultime, il mérite notre obéissance ultime. Bon, que le Seigneur soit glorifié pour sa miséricorde immense. Hein? Si vous êtes tombés dans les péchés, hein? Repentez-vous et croyez-vous au Seigneur. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est toujours la réponse. Croyez-vous, repentez-vous. Et il vous pardonnera avec joie. Avec joie. Voici le roi ultime venu pour bénir le monde, qu'il soit glorifié. Nous prions ensemble. Notre Père, nous sommes reconnaissants pour Jésus et nous connaissons un peu sa gloire, sa majesté. Nous savons qu'il est digne des serviteurs mieux que moi et mieux que nous. Mais nous avons la confiance qu'il nous accepte par sa grâce. Et nous avons la foi qu'il est le seul sauveur pour le monde. Et nous prions que nous puissions vivre d'une manière digne de notre roi. Et Père, pour ceux qui sont ici avec nous ce matin, et ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas sauvés, changés. Nous prions que tu puisses ouvrir leur cœur afin qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Parce que nous voulons voir chacun sauvé. Pour la gloire de Jésus et pour leur bien. Nous prions tout cela dans le nom de notre roi et notre sauveur, Jésus. Amen.